Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
La crise actuelle au Moyen-Orient, marquée par les tensions entre Israël et l'Iran et d'autres puissances régionales, bouleverse l'équilibre géopolitique mondial. Au cœur de ces dynamiques complexes, l'Afrique se retrouve à un carrefour stratégique. D'un côté, elle subit des répercussions économiques et sécuritaires et l'instabilité. De l'autre, elle émerge comme un acteur diplomatique potentiel, un partenaire énergétique convoité et un relais d'influence entre les blocs rivaux. Cette position donc est unique, place le continent face à un double défi, éviter l'alignement passif et saisir les opportunités d'affirmer son rôle sur la scène internationale. Et pour vivre l'impact de ce conflit en Afrique et ce qu'il redessine dans l'échiquier diplomatique, nous aurons comme guide du jour Nasser Harji, figure du champ des relations internationales, dont l'expertise affûtée en géopolitique et en communication est actuellement aussi très avérée. Il est aussi consultant senior auprès du prestigieux cabinet international MGH Partners. Bonjour à vous et merci de nous servir de guide aujourd'hui.
Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être ici présent parmi vous à votre émission.
Alors, Monsieur Harji, sans plus tarder, comment analysez-vous la situation actuelle au Moyen-Orient du point de vue du droit international ?
Alors, il faut rappeler que la situation actuelle illustre la complexité inhérente à l'application du droit international public dans un contexte régional en pleine mutation. Nous observons des tensions entre différents principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, notamment l'équilibre délicat entre l'article 2 alinéa 4 qui consacre l'interdiction du recours de la force et l'article 51 qui reconnaît le droit de légitime défense. Du point de vue strictement juridique, les développements récents de la région soulèvent des questions importantes relatives au principe du jus ad bellum et du jus in bello. Et l'analyse de proportionnalité et de nécessité codifiée dans le droit international humanitaire, notamment dans les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, demeure centrale dans l'évaluation de toute situation de conflit. Et l'aspect qui préoccupe le plus la communauté internationale concerne la protection des populations civiles et des infrastructures essentielles. Et je rappelle le principe de distinction qui est une pierre angulaire du droit international humanitaire et qui exige une protection rigoureuse des non-combattants conformément aux standards établis depuis les conventions de la Haye. Et cette situation révèle également les défis structurels du système de sécurité collective. Les mécanismes du Conseil de sécurité conçus dans un contexte historique notamment, qui montrent parfois leurs limites face aux crises contemporaines, ce qui alimente les réflexions sur l'adaptation des institutions internationales aux réalités du XXIe siècle. Et pour conclure, l'enjeu juridique crucial demeure la protection des voies de navigation internationale. Les détroits stratégiques comme le Bab el-Mandeb et Hormuz, régis par la Convention de Montego. La Convention de Montego Bay de 1982 constitue des artères vitales du commerce mondial. Et leur statut juridique de passage international garanti par les articles 37 et suivant par la CNDUM est essentiel pour la stabilité économique globale. Et ces routes transportent respectivement 10 et 30% des flux pétroliers mondiaux.
Et dans ces dynamiques, quelles sont aujourd'hui les implications de cette crise sur l'architecture de sécurité internationale ?
Cette crise met en lumière ce que je qualifie de fragmentation normative du système international. Nous assistons à l'émergence de ce que les internationalistes appellent des guerres de régime, des systèmes normatifs parallèles qui parfois se complètent, parfois se concurrencent. L'analyse des dynamiques institutionnelles révèle plusieurs phénomènes. Premièrement, l'activation croissante des mécanismes régionaux de sécurité, la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui supplée aux carences du système universel. Et deuxièmement, l'évolution du concept de sécurité humaine, développé notamment par les travaux de Kofi Annan et codifié dans la responsabilité de protéger, adoptée au sommet mondial de 2005. Et cette doctrine établit trois piliers, la responsabilité étatique de protection, l'assistance internationale et en dernier recours, l'action collective. Et nous observons comment les acteurs régionaux tentent d'appliquer ces principes. Et donc, l'aspect économico-juridique est fascinant. Les sanctions économiques unilatérales se multiplient, créant ce que les juristes appellent un lawfare économique. Cependant, ces mesures soulèvent des questions de compatibilité avec les règles de l'OMC, notamment l'article 11 du GATT, l'article 21 du GATT, qui permet les exceptions de sécurité nationale. Et pour l'Afrique, cette fragmentation crée des opportunités juridiques et diplomatiques importantes. Le continent peut innover sa neutralité historique, héritée du mouvement que l'on connaît tous des noms alignés de Bandung en 1955, pour se positionner comme un médiateur crédible. L'Union africaine forte de son expérience en médiation, je rappelle les crises du Soudan, au Mali, en République centrafricaine. Donc, elle dispose d'une légitimité reconnue par la Charte des Nations Unies, notamment l'article 52 qui encourage les arrangements régionaux.
Et dans cette même orientation, je le dis également, on ne peut ne pas parler de l'impact multisectoriel pour l'Afrique. Justement, quels sont les impacts de cette crise sur l'économie africaine et quels mécanismes juridiques peuvent protéger les intérêts du continent ?
L'impact sur l'Afrique doit être analysé à travers plusieurs prismes juridiques et économiques. Du point de vue du droit commercial international, la hausse des primes d'assurance maritime qui ont triplé pour certaines routes soulève des questions relatives aux clauses de force majeure dans les contrats internationaux régis par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. L'analyse macroéconomique aujourd'hui révèle un triple choc énergétique, logistique et financier. Chaque dollar d'augmentation du baril représente un surcoût de 2,3 milliards pour les économies africaines importatrices nettes. Mais voici l'élément crucial que je veux souligner. Cette crise accélère la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, entrée en vigueur en janvier 2021. La ZLECAF constitue donc un mécanisme de résilience exceptionnel avec ses dispositions sur la facilitation des échanges, l'harmonisation douanière et la libre circulation des biens. Elle peut réduire la dépendance africaine aux chaînes d'approvisionnement extracontinentales. Les projections économétriques suggèrent une augmentation du PIB continental de 3,5% d'ici 2035. Et du point de vue du droit de l'investissement international, l'Afrique dispose d'atouts considérables. Les accords de protection des investissements, les API, conclus par les pays africains avec les partenaires du Golfe, offrent des garanties juridiques robustes. Le Maroc, par exemple, a signé 69 accords bilatéraux d'investissement, créant un cadre juridique sécurisé pour les capitaux internationaux. L'innovation juridique africaine donc mérite d'être souligné. L'acte uniforme l'OHADA relatif au droit commercial général harmonise le droit des affaires pour 17 pays, créant un espace juridique intégré unique au monde, vraiment très unique au monde, et cette harmonisation facilite donc les investissements régionaux et transcontinentaux.
Et aujourd'hui, comment cette crise plutôt redéfinit-elle le partenariat stratégique de l'Afrique ?
Alors, nous assistons à une recomposition des équilibres géopolitiques que j'analyse à travers le concept de multipolarité juridique. L'expansion des BRICS, qui compte désormais l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, qui illustre donc l'émergence d'architectures normatives alternatives au système de Bretton Woods. L'aspect fascinant donc réside dans la diversification des sources du droit international économique. Les BRICS développent leurs propres mécanismes financiers, nouvelles banques de développement, des arrangements de réserves contingentes qui offrent des alternatives aux conditionnalités traditionnelles du FMI et de la Banque mondiale. Pour l'Afrique, cette multipolarité crée des opportunités d'arbitrage institutionnel. Le continent peut sélectionner les mécanismes de financement les plus avantageux, jouer sur la concurrence entre bailleurs et développer donc sa propre capacité de négociation collective. L'initiative chinoise Belt and Road, avec ses 29,2 milliards d'engagements en Afrique, donc, qui représente tout de même plus de 34% en 2024, illustre cette diversification. Mais contrairement aux perceptions simplistes, l'Afrique développe une sophistication juridique remarquable dans la négociation de ses partenariats. Les contrats d'infrastructure intègrent désormais des clauses de contenu local, de transfert technologique et de développement des capacités humaines. Le Maroc exemplifie cette stratégie d'optimisation multilatérale. Le Royaume maintient simultanément le statut avancé avec l'Union européenne, les accords d'Abraham avec Israël, des partenariats stratégiques avec la Chine et les pays du Golfe, tout en développant l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'initiative atlantique pour l'intégration africaine. C'est de la real politique diplomatique du très haut niveau qui maximise les bénéfices tout en préservant l'autonomie décisionnelle.
Et dans cette même dynamique également, il y a des conséquences, mais il y a aussi des opportunités, entre autres, par rapport aux réalités actuelles. Et comment l'Afrique peut-elle tirer parti de cette crise pour transformer son secteur énergétique, selon vous ?
L'Afrique dispose d'avantages comparatifs considérables qui deviennent stratégiques dans le contexte actuel. Analysant les chiffres précisément, l'Afrique détient 13% des réserves mondiales de gaz naturel et entre 2010 et 2040, 40% des nouvelles découvertes gazières mondiales ont eu lieu sur notre continent. Donc le projet géostratégique majeur reste le gazoduc Afrique-Atlantique. Ce projet de 6800 km reliant le Nigeria au Maroc via 14 pays illustre parfaitement l'application du droit international de l'énergie. La négociation donc, de ce type d'infrastructure transcontinentale implique l'harmonisation de 14 régimes juridiques nationaux, la mise en place de mécanismes de règlement de différends et l'établissement de garanties souveraines. Du point de vue du droit de l'énergie, ce projet s'appuie sur la charte de l'énergie et les principes de l'Agence internationale de l'énergie concernant la sécurité d'approvisionnement, avec une capacité de 30 milliards de mètres cubes annuels, dont 18 milliards iraient vers l'Europe. Ce gazoduc peut couvrir 10% des besoins énergétiques européens. Et l'innovation juridique donc, réside dans les mécanismes de financement hybride développés, à ce titre des partenariats publics-privés transcontinentaux, voilà, donc des garanties multilatérales impliquant la Banque africaine de développement, donc la Banque islamique de développement également, et les fonds souverains du Golfe. Ces structures financières complexes nécessitent une expertise juridique pointue en droit bancaire international et finance islamique. Et la transformation énergétique africaine s'accélère également dans les énergies renouvelables. L'Afrique dispose d'un potentiel solaire de 12 TWh, soit 40 fois la demande mondiale actuelle. Les cadres juridiques se modernisent, on est en train de le voir, des lois sur les énergies renouvelables, des mécanismes de feed-in tariffs, des systèmes d'enchères compétitives inspirés dans des meilleures pratiques internationales.
Et dans cette orientation également, nous avons vu également que le roi Mohamed VI et son initiative atlantique, entre autres pour l'océan, il y a aussi des réalités qu'il faudrait tenir en compte par rapport à cette orientation aussi. Quels sont les enjeux d'ailleurs de sécurité maritime et de droit de la mer pour l'Afrique ?
La crise actuelle illustre l'importance cruciale du droit de la mer pour l'économie mondiale, rappelant les fondamentaux juridiques, la convention qu'on a citée tout à l'heure de Montego Bay de 1982, ratifiée par 167 États, elle établit les règles régissant 71% de la surface terrestre. Les détroits stratégiques, on a parlé aussi de Hormuz, de Bab el-Mandeb, mais également de Gibraltar, du Suez, donc sont régis par le régime juridique du passage en transit, établi dans les articles 37-44 de la CNUDM. Et ce régime garantit la liberté de navigation pour tous les États sans discrimination. Toute entrave constitue une violation du droit international. Et pour l'Afrique, les implications sont considérables. Le continent dispose de 30 340 000 km de côte et de vastes zones économiques exclusives, les célèbres ZEE, qui s'étendent jusqu'à 200 miles marins. Ces ZEE africaines recèlent des ressources halieutiques estimées à 24 milliards de dollars annuels et des réserves d'hydrocarbures offshore considérables. L'innovation africaine en droit maritime est remarquable. L'architecture de paix et de sécurité africaine inclut désormais une dimension maritime avec la stratégie maritime intégrée de 2050. Et cette stratégie coordonne la lutte contre la piraterie, la pêche illégale et la protection des corridors commerciaux. Le Maroc illustre donc ici l'excellence dans ce domaine avec le port de Tangemed, qui est le premier port méditerranéen et africain, et le futur port de Dakhla Atlantique. Ces infrastructures s'appuient sur des cadres juridiques sophistiqués, des zones franches, des tribunaux commerciaux spécialisés, des mécanismes d'arbitrage inspirés vraiment des règles de la Chambre de commerce internationale. Et la dimension géostratégique est fascinante. Pendant que les routes traditionnelles Asie-Europe via le canal de Suez subissent les perturbations, les routes alternatives via le Cap de Bonne-Espérance et les futurs corridors atlantiques africains gagnent en attractivité. C'est une opportunité historique pour repositionner notre continent, donc l'Afrique, comme hub logistique mondial.
Et dans ces dynamiques, nous allons suivre cet élément pour revenir sur la contextualisation du conflit au Moyen-Orient, mais aussi des réalités et du rôle que l'Afrique peut jouer dans cette crise. Et on revient avec notre invité.
Quand le Moyen-Orient s'embrase, l'Afrique en ressent la chaleur. Les conflits à Gaza, les tensions avec l'Iran, les attaques en mer Rouge, tout cela perturbe les routes commerciales et fait flamber les prix de l'énergie. Résultat, les ports africains de l'Est ralentissent, le baril de pétrole grimpe et les budgets déjà fragiles de nombreux pays africains vacillent. Mais derrière cette instabilité se cache une opportunité. L'Afrique devient un territoire stratégique avec ses ports comme Djibouti ou Durban qui attirent l'attention. Ses réserves de gaz naturel du Mozambique au Sénégal sont courtisées. Et sur le plan diplomatique, sa posture de non-alignement lui offre un rôle d'équilibre dans un monde fragmenté. Car pendant que les grandes puissances s'affrontent, l'Afrique, elle, peut proposer des solutions, sécuriser ses corridors logistiques, renforcer ses partenariats sud-sud, jouer l'intermédiaire entre blocs. Certes, l'Afrique subit, mais elle peut aussi peser, à condition de transformer cette crise en levier politique et surtout de parler d'une seule voix.
De retour avec Nasser Hargi pour toujours parler de la situation au Moyen-Orient, mais également aujourd'hui le rôle redéfini pour l'Afrique, entre autres. Monsieur Hargi, également, comment l'Afrique peut-elle maximiser ses opportunités dans le contexte de fragmentation géopolitique actuelle ?
L'Afrique se trouve dans une position géostratégique unique, que je qualifie davantage de la neutralité active. Contrairement à la neutralité passive de la guerre froide, l'Afrique développe une diplomatie économique sophistiquée qui exploite, on le voit très bien, la multipolarité émergente. L'analyse des flux d'investissement révèle cette sophistication. Les fonds souverains du Golfe, qui contrôlent collectivement 4 000 milliards de dollars, intensifient leur investissement africain. Le PIF saoudien, avec ses 925 milliards, la DIA émiratie, 1 400 milliards, et le QIA qatari avec 500 milliards, qui voit l'Afrique donc, tous les quatre voient l'Afrique comme un terrain de diversification stratégique. Et simultanément, la Chine maintient son engagement via l'initiative Belt and Road, avec des engagements de 29,2 milliards en 2024. Mais l'innovation réside surtout dans l'évolution qualitative de ces partenariats. Transfert technologique, formation spécialisée, co-développement industriel, plutôt que de simples extractions de matières premières. La ZECAF transforme la donne économique continentale avec un marché potentiel de 1,3 milliard de consommateurs et un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars. Elle crée l'économie la plus dynamique au monde après l'Asie. Les projections économétriques suggèrent une croissance du commerce intra-africain de 13% actuellement à 35% d'ici 2035. L'intelligence collective africaine également s'affirme à travers des mécanismes innovants, des négociations groupées face aux partenaires extérieurs, l'harmonisation des cadres réglementaires, la mutualisation des risques via l'African Trade Insurance Agency, la coordination des politiques monétaires à travers les unions monétaires régionales. L'exemple marocain illustre cette sophistication. L'initiative atlantique ne se contente pas de créer des corridors commerciaux. Elle établit, comme le veut Sa Majesté, un écosystème juridique et économique intégré. L'harmonisation portuaire, la facilitation douanière, des standards techniques communs, des mécanismes de financement innovants associant des banques de développement, des fonds souverains et secteurs privés.
Et justement, au secteur privé, tant d'éléments que nous, bien évidemment, nous avons abordés avec vous. Merci encore à vous, Monsieur Largy, par rapport à l'actualité. Une information aussi assez vulgarisée à travers votre argumentaire. Et merci encore de nous avoir servi de guide aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie et rappeler que cette crise moyen-orientale, malgré sa gravité humanitaire, révèle l'émergence d'un monde multipolaire où l'Afrique peut jouer un rôle central. Le continent dispose des atouts démographiques, énergétiques, géostratégiques pour devenir un pilier de la gouvernance mondiale du 21e siècle. Mais cela exige une vision, une coordination et l'excellence dans l'exécution. L'Afrique, donc, de 2035, se construit dans les choix stratégiques d'aujourd'hui. Merci à vous pour votre invitation.
Merci également à vous, chers amis, pour cette information encore autour du Moyen-Orient également, l'impact pour l'Afrique, toujours dans Destination Afrique. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au plaisir.